Adicias, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Et si demain, la planète tournait rond, ben ça irait beaucoup mieux. Et si demain, en direct entre 17h et 18h sur Esprit Occitanie, ex-Occitanie première, avec à la réalisation Jean-Louis Zacfres, et je le remercie parce que sans réalisation, pas d'émission. Au micro, Christian Moreto, mais pas que. Et nous n'y sommes pas encore d'ailleurs à Pâques, hein, mais bon, ceci dit, dans le studio, je salue l'ami Philippe Sanson, directeur d'Alter Echo, directeur de la publication, et il va nous parler des grands projets d'utiles. Alors ici, demain, il n'y avait plus que des grands projets d'utiles, ça irait mieux. Et puis nous avons aussi dans le studio David Crespin, qui lui est photographe, artiste, qui représente l'association Transit et qui vient de Montpellier. Merci d'être là. Et puis nous allons avoir au téléphone de suite un dénommé Nicolas Tavernier. Mais d'abord, l'émission est en coopération aussi avec nos amis de l'American Cosmographe ex Utopia Toulouse, TV Sol Actualité sur Internet. Mais aussi le théâtre du pavé, l'indicatif est signé de Damien Moreto. Et je salue au passage des fidèles de l'émission. Un coucou à Véronique Labre, Patrick Boyer, Marianne Dupont, Daniel Lafont, Caroline Mercier. Je te remercie pour tout le travail que tu fais sur notre site. Anna Carbonel, Fanny et Grégoire d'Ozoville, et puis aussi les Merles Moqueur, un resto sympa qui est situé du côté de la Patte d'Oie. Je salue au passage l'ami Renaud Delperou et toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter. Alors nous avons peut-être au téléphone notre interlocuteur. Bonsoir, Nicolas Tavernier. Non, a priori nous ne l'avons pas encore, donc nous allons l'avoir dans quelques instants. Nicolas Tavernier, qui a publié donc Un village sous influence ou l'école de la délinquance de nos élus, c'est paru chez Max Milo, donc il va nous en dire plus dans quelques instants. En attendant, voilà, j'ai entendu un clic-clic dans le... Nicolas Vernier, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, bienvenue dans l'émission Et si demain, la transparence existait au niveau politique comme au niveau des dirigeants de transnationales et tout, ça irait peut-être mieux. Ah, là, je crois que je l'ai perdu. Je crois qu'il vaut mieux peut-être le faire directement au téléphone. Jean-Loup, peut-être que comme on fait d'habitude, parce que sinon, on risque de ne pas l'avoir. Parce que là, si... il y a des connexions qui ne se font pas très 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 bien. Donc Nicolas Tavernier, Un village sous influence. Tu as mis le micro là, non? Oui. Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, ça y est, là je vous entends, ça va mieux. Donc vous venez de publier, enfin vous avez publié il y a quelques temps, chez Max Milo, Un village sous influence ou l'école de la délinquance de nos élus. Vous êtes photographe de presse, et ça va très bien, puisqu'il y a un autre photographe, mais artiste, qui est artiste aussi, qui est là. Vous avez été adjoint aussi au maire et démissionnaire de la petite commune d'Avilly-Saint-Léonard dans l'Oise. Vous avez côtoyé des femmes et des hommes politiques locaux ou nationaux. Et déjà, dans le titre de l'ouvrage, je dirais que vous frappez fort. Quels sont les motifs qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage?
Eh bien, parce qu'en tant que photographe de presse, je côtoyais dans mon travail parfois des politiques nationaux. Mmh. Et je n'avais pas idée de ce qui se passait localement. Et quand j'ai créé cette petite liste apolitique et altruiste en 2001, je ne pensais pas du tout constater ce que j'allais constater, c'est-à-dire l'impéritie d'élus locaux. Et en fait, j'ai découvert que c'était localement que ça se passait. Et on fait croire un petit peu à tout le monde que le poisson pourri par la tête, hein, que notre démocratie pourrie par la tête, ça arrange tout le monde, comme ça on sort de temps en temps un ou deux fusibles, des Cahuzac, des Fillon, et on dit, vous voyez, la démocratie fonctionne très bien. Mais en fait, on se trompe totalement. C'est pourquoi des Cahuzac, des Fillon ont pu se comporter comme ça. C'est parce que localement, pendant 10 ans, 15 ans, ils ont fait ce qu'ils voulaient dans un fief, dans une baronnie, pardon. Et voilà, ils ont été élevés au faux pied de l'impunité dans leur baronnie. Et c'est à cause de ça qu'ils ont pu ensuite se comporter comme ils l'ont fait plus tard. Donc si on veut moraliser la vie publique, c'est évidemment localement qu'il faut commencer à le faire, et ça serait très facile à faire. Mmh.
Alors, a priori, à plusieurs reprises, vous vous êtes frotté aussi au pouvoir de personnages très connus comme Eric Woerth, qui, me semble-t-il, pensait vous maintenir un petit peu dans une forme de soumission.
Oui, parce que ça marche en général toujours comme ça. C'est ce que je décris et décrypte un petit peu, j'espère, dans les livres, sur les mécanismes humains. C'est de cette, j'allais dire, corruption douce, pardonnez-moi l'oxymore, hein, mais c'est une petite corruption de tous les jours par des flatteries, des petits achats, par des postes, par financiers forcément, enfin, pas financiers, mais par des postes politiques ou par des postes de vice-présidence de communauté de communes, des choses comme ça. Et c'est ce que je décris, c'est que les barons, mais c'est pas Eric Woerth en particulier, hein, j'aurais pu écrire le même livre à 10 km au nord, pris pour ça, j'en suis un, les petits élus ont souvent le doigt sur la couture, n'osent pas déplaire aux barons, être dans le vent, et voilà, et ça fonctionne, ou plutôt ça dysfonctionne comme ça.
Mais ça, c'est dû aussi.
Donc, j'ai tombé de ma chaise. Je disais, mais c'est pas possible. Il vient de faire une déclaration de 5 minutes où il dénonce tel investissement. Et puis finalement, il va voter pour par petite lâcheté, par peur et tout ça. Donc, c'est vraiment les mécanismes humains qui font que les gens n'osent pas défendre coûte que coûte l'intérêt général. Et pour faire ça, mais pour obliger les élus à faire ça, mais il faudrait mettre les carcans, les garde-fous pour les contraindre à l'altruisme.
Alors par contre, vous rendez un vibrant hommage à un dénommé Amédée. Pouvez-vous nous le présenter, nous en dire plus ?
Ah ben, c'est un maire que je suis allé chercher quand j'ai décidé de faire cette liste apolitique, moi n'ayant pas le temps, parce qu'il faut quand même du temps, si on veut bien s'occuper d'une commune, il faut du temps. Et je ne pensais pas qu'il y avait tant de boulot que ça, mais je voulais quand même avoir du temps. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui me paraissait très droit et autonome, et qui était professeur de mathématiques, donc il avait en principe pas mal de temps pour lui. Et c'est comme ça qu'on a constitué une liste avec des adjoints qui étaient un petit peu spécialisés dans leur domaine, parce que dans les toutes petites communes, n'ayant pas de service, il faut des gens un petit peu compétents. Et le maire me paraissait très bien, et d'ailleurs il l'a été pendant très longtemps, on le voit dans le livre, hein, pendant 10 ans, il a été très courageux, combattu les dysfonctionnements de la vie locale, parfois, et d'Eric Woerth souvent, mais au bout d'un moment, il a lâché l'affaire, donc il a été, oui, très très courageux, très investi pendant longtemps, et il a pris peur, hein. Moi, il m'a dit, mais vous vous rendez compte, Nicolas, l'affaire Boulin, qui s'est noyé dans une flaque d'eau, on va très très loin, et donc il a pris peur, et il a lâché l'affaire, bon, ben, ça arrive, c'est, voilà. Mais sinon, il a été effectivement très investi pour la vie locale et pour la vie du village, et ça, c'est formidable. On a tout fait pour faire une liste totalement apolitique et donc totalement altruiste.
Alors, quand vous dites apolitique, là, je dirais que c'est pas un parti pris ou pas un parti politique, parce que quand vous avez décidé de monter la liste, quand même, dans politique, il y a politis, il y a le côté gestion de la vie de la commune.
Bien sûr, c'est ça qu'on voulait faire, ne faire que gérer la vie de la commune pour l'intérêt de nos administrés. C'est-à-dire que moi, quand j'ai trouvé Amédée Bussière pour être maire, quand j'ai réussi à le convaincre, parce qu'au début il a refusé, ce que je trouvais d'ailleurs très sympa, quand j'ai réussi à le convaincre, à la fin, je lui ai dit, écoutez, moi je ne sais pas pour qui vous votez, je ne veux jamais le savoir. C'est vrai, parce que je pense que dans une toute petite commune, on peut gérer des problèmes d'enfouissement de réseau, de lampadaires, de choses d'environnement, on est en biocorridor, et nous c'est très important, on n'a pas besoin d'être politique, et faut surtout pas être politique, et c'est pas du tout une mode macroniste de ma part, hein. C'était en 2008, donc on était bien avant ça, hein. Donc voilà, c'était vraiment faire quelque chose uniquement pour les administrés de notre village.
Et vous vous êtes aussi heurté à une puissance, ce sont les chasseurs et leur poids politique.
Ah ben, ils sont considérables. Comme je vous le disais, on est donc dans un biocorridor, le plus gros biocorridor aux alentours de Paris. Donc vous savez ce que c'est les fameuses trames vertes dont on a tant parlé pendant le Grenelle de l'environnement, les passages d'animaux d'un massif, en l'occurrence forestier, à un autre. Là, pour nous, c'est des cervidés. Et il est obstrué depuis 15-20 ans. Tout le monde le sait, tout le monde s'en fiche. Et pourtant, on est en PNR, parc naturel régional. C'est l'article numéro 1 de la charte du PNR, c'est préserver et réactiver les biocorridors. Et finalement, qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain ? Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Alors on fait de la com, on fait des belles plaquettes quadricouleurs, on parle de biocorridor tout le temps, mais sur le terrain, tout le monde s'en fiche. Et c'est très souvent les chasseurs qui font la loi. Mais on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, comment Macron déroule le tapis rouge avec les chasseurs. C'est assez invraisemblable.
Et donc, vous continuez, je ne sais plus là, si vous êtes encore élu ou vous avez
Non,
la...
non, moi j'ai
Non.
démissionné, je suis conseiller municipal,
D'accord.
mais je n'y vais plus parce que je suis devenu un paria chez moi, évidemment, ayant pointé en creux les manquements et finalement le manque de courage. Mais le maire est très énervé contre moi, il m'a mis au tribunal, ben, voilà, très, très classique, fallait qu'il trouve un coupable à ses manquements. Donc non, non, je ne suis plus, je suis conseiller municipal, mais je ne peux plus siéger parce que quand j'ai demandé la parole, le maire me la donne même plus. Voilà, mais j'ai démissionné de mon poste d'adjoint, évidemment, et c'est... Voilà.
Donc je rappelle, Nicolas Tavernier, votre ouvrage, Un village sous influence, sous l'école de la délinquance de nos élus. Mais effectivement, les choses ne sont pas simples et pas faciles. Mais à vos côtés, vous avez peut-être quand même quelques personnes. Vous n'êtes pas tout seul, tout seul.
Ah non, non, mais il y a plein d'administrés qui trouvent ma démarche formidable. Et puis la liste, d'ailleurs, même sans que j'y sois, il continue très bien pour le village. Le maire, je crois, s'occupe sérieusement de la vie du village. Et lui, il a capitulé face à l'ampleur du combat, face à Eric Woerth et à ça. Mais sinon, pour le village, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il continue sur la lancée d'une bonne gestion du village. Et puis moi, dans le village, il y a plein d'administrés qui sont ravis de ce que je fais. Moi, je continue maintenant différemment, évidemment, à défendre ça. Je pense, je me bats pour porter ce point de vue que c'est localement qu'il faut commencer à moraliser la vie publique. C'est pas par le haut. Par le haut, c'est bien de le faire, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, en tout cas qui va changer grand-chose. Rendez-vous compte, on est, aux yeux de Transparency International, 23e en termes d'exemplarité face à la corruption. 23e, on est coincé entre les Bahamas et l'Uruguay. Et l'avantage des Bahamas et de l'Uruguay, c'est qu'ils ne donnent pas de leçons de morale au monde entier. Nous, on n'arrête pas de donner des leçons de morale à tout le monde. Mais 23e, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la corruption, elle est partout, tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire partout et tout le temps en même temps, mais elle est partout, régulièrement, dans la gestion de l'argent public. C'est dramatique, c'est dramatique.
D'accord. Mais Nicolas Tavernier, donc un village sous influence, sous l'école de la délinquance de nos élus, donc c'est paru chez Max Milo. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de l'émission. Et si demain la corruption s'arrêtait au niveau politique et au niveau tout court.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Là, et donc maintenant, nous pénétrons dans le studio. Alors, est-ce que j'ai des invités corrompus ici? Non, non, je ne crois pas. Hein. Ils sont triés. À l'entrée, on leur demande les papiers, savoir si tout va bien. Non, ceci dit, trêve de plaisanterie. Bienvenue. Nous connaissons bien sûr Philippe Sanson. Et par contre, je fais la connaissance de David Crespin. Alors, David Crespin, photographe, artiste, l'association Transit, c'est quoi? C'est la transition vers une société plus humaniste, écologiste, que sais-je encore, mais qui est basée à Montpellier.
Montpellier, ouais, c'est ça. C'est plutôt un collectif, en fait. Bon, c'est
Mais c'est très bien, les collectifs. Enfin,
la...
les collectifs, juste, donc c'est travailler ensemble, c'est justement échanger, partager. Et donc, comme je dis aussi quelquefois dans mes émissions, même assez souvent, je préfère la coopération à la compétition.
Très bien, ça me va. Ouais, donc du coup, c'est un collectif, ouais, Montpellierin, qui a à peu près une petite vingtaine d'années, je dirais, qui regroupe, qui a regroupé en tout peut-être une dizaine de photographes et qui travaille essentiellement pour la presse, justement, pour la presse, pour les publications, enfin, en tout cas, sur du documentaire, du reportage de presse, mais aussi du documentaire. Et d'ailleurs, enfin, moi je viens de la presse aussi, je ne l'ai pas dit par rapport à votre invité.
Pour nous tutoyer si tu
ouais,
veux.
Oui, bah, pas de souci. Par rapport à ton invité justement d'avant, j'ai travaillé 16 ans dans la presse avant de me consacrer à des projets, pour le coup un petit peu plus mûris, artistiques, je ne sais pas, mais en tout cas des projets photographiques. Un peu plus réfléchi, quoi. Aucune critique vis-à-vis de la presse, mais c'est vrai que c'est un travail qui
c'est
est
différent.
Souvent très 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 soutenu, notamment dans la rapidité. Et donc c'est pour ça que le côté réfléchi est juste avoir le temps de se poser les bonnes questions et de réfléchir vraiment à son sujet et comment l'aborder et comment le réaliser.
D'accord. Et donc là, tu es venu de Montpellier donc jusqu'à Toulouse. Pour une raison bien particulière dans le quartier des Pradettes.
Oui, c'est ça, en fait. Je suis en résidence ouais, dans le quartier des Pradettes. Donc le collectif a répondu à un appel à candidature de la mairie de Toulouse, en fait, qui, dans le cadre de sa politique culturelle. Qui en fait souhaitait sur le quartier des Pradettes des projets qui puissent créer un petit peu de lien, qui puissent faire vivre un petit peu le quartier et montrer un peu des choses différentes. Donc il y a plein de choses. Il y a une compagnie de cirque, je crois qu'il y avait un chorégraphe, il y a donc nous. Enfin voilà, ça participe un peu à la programmation un peu culturelle du quartier. Et ce projet, nous là, qu'on a présenté, qui a été pour le coup retenu, c'était à travers la photographie, à travers des portraits, à travers des prises de vue, essayer de créer du lien entre les gens, des gens qui ne se connaissent pas, et dans un quartier qui est quand même super hétérogène, en fait, où il y a plein de choses qui se passent, mais beaucoup de zones pavillonnaires aussi, une zone économique, et puis finalement tout ce petit monde cohabite sans vraiment se connaître. Donc c'était un petit peu le but de notre venue ici, et ça va se dérouler en plusieurs étapes et en plusieurs périodes où je serai sur le quartier pour travailler sur ce sujet-là. Ouais.
D'accord, donc ce qui veut dire que là tu commences à prendre tes marques
Ouais, tout à fait.
D'autant que tu avais commencé hier, bien sûr, il y avait un superbe soleil à Toulouse.
Non, il y a
pas de problème.
J'étais un peu trempé hier. En fait, on est venu, je dis on, parce qu'on travaille un peu en binôme avec l'administratrice du collectif, qui est Valentine Pigné, et donc du coup, qui elle gère un petit peu tout ce qui est, tout ce qui est administratif. Et du coup, on était venu un petit peu ensemble. T'es venu une journée ou deux pour des réunions. Et là, moi, je suis revenu seul jeudi dernier jusqu'à jeudi prochain pour justement commencer à développer ce projet-là. Et parallèlement à ça, dans cette résidence, il y a aussi un deuxième projet qui est animer des ateliers avec des élèves de seconde du lycée Rive-Gauche, exact, qui est en fait sur le quartier des Pradettes. Et une vingtaine d'élèves à qui on a proposé une sorte d'éducation un peu à l'image à travers quatre ateliers qui sont des mémoires de quartier. Donc en fait, c'est aller chercher des images d'archives et faire une reconduction photographique. Vous savez, vous placez la photo dans son environnement actuel, du coup en essayant de faire concorder un petit peu les perspectives et sa place dans le paysage urbain. Et ensuite des interviews pour la mémoire un peu historique du quartier. Donc là, c'est plutôt axé sur des portraits photographiques et un petit récit d'interview. Ensuite, il y a un atelier sur les chemins de traverse que les étudiants empruntent de leur domicile au lycée. Et du coup, dans ce segment-là, dans ce chemin-là, en fait, on leur demande de faire des photos de tout ce qui leur plaît, quoi, ce qui peut attirer leur attention. Et le quatrième atelier, c'est sur des lieux du quartier, réinvestir des lieux en fait en se mettant en scène dans des espaces en fait qu'ils ont l'habitude de fréquenter ou pas. Et voilà. Donc là, tout ça, ça m'occupe un jour par semaine, et après le reste, donc je me concentre sur ce projet-là, sur l'autre projet.
D'accord.
Voilà.
Merci pour ces précisions, mais nous y reviendrons. Ceci dit, tu peux poser des questions aussi à Philippe Sanson, ouais, et vice-versa. Alors, Philippe, Alter...
J'aurais une question, d'ailleurs.
Oui, mais vas-y, alors pose-lui la question, et après nous parlerons d'Alter Echo.
Oui, moi, ce qui m'intéresserait appréhender, c'est est-ce que le fait d'être de Montpellier, le collectif de Montpellier, de venir pour ce projet sur Toulouse, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire d'être sur un territoire que l'on ne connaît pas, ou alors justement ça facilite parce qu'on a une sorte de virginité par rapport au vécu, à l'histoire du quartier, tout ça?
Enfin, je dirais les deux, en fait. Il y a un côté un petit peu... on ne connaît pas le quartier. Heureusement, on avait pris un petit peu des contacts en amont. Mais c'est vrai qu'une fois sur place, malgré ces contacts-là, on est un petit peu... On est un petit peu livré à nous-mêmes. Et en même temps, je trouve que c'est ce regard assez nouveau sur les choses est quand même super important et super intéressant. Et je dirais que c'est, à la rigueur, c'est celui que je garde en premier, quoi. Mmh. C'est vraiment cette nouveauté qui, finalement, oui, ok, on n'est pas chez nous, entre guillemets, on ne connaît pas tout le territoire, ouais, mais en même temps, c'est génial.
C'est un regard neuf, oui. Exactement. Oui, parce que ce projet aurait pu se faire à Montpellier, après tout, mais du coup, il aurait été différent dans l'approche.
Il aurait été différent, peut-être moins excitant aussi, peut-être moins stimulant. Et là, vraiment, c'est cette découverte, en fait, découverte des gens, du territoire, et de la manière dont tout ça s'articule et qui est super intéressant à découvrir. Ouais.
Ouais. Sans doute, oui.
Merci Philippe d'avoir pris le relais pour les questions, mais tu peux aussi, David, poser des questions à Philippe sur tout ce qu'il fait, parce que lui, il est aussi président, je ne sais pas si tu l'es encore, ou co-président de l'après. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'après? C'était juste après un certain collectif qui s'est créé.
Oui, l'après, c'est une drôle de structure, hein, association culturelle, écologique, pour la relocalisation de l'économie dans un monde solidaire. Donc, on y a tout mis là-dedans. Hein. Et oui, ça date de 2008, l'après. C'est une histoire électorale. On en parlait avec ton invité par téléphone tout à l'heure, qui parlait d'une liste en 2008, citoyenne. Ben, c'est ce qu'on avait fait, nous, ici à Toulouse aussi, hein, à l'époque, en 2008. Et puis, on n'a pas voulu se quitter et on a voulu être concret, faire de la politique entre les temps électoraux d'une autre façon. On a commencé à vouloir relocaliser l'économie pour des questions écologiques, sociales. C'est ça qui nous paraissait urgent. Et on avait des contacts avec des paysans midi-pyrénéens, avec lesquels qu'on croisait entre un képi et un plant de maïs dans des champs, parfois, beaucoup du Tarn-et-Garonne. Et on a mis en place des paniers paysans, ça a commencé comme ça. Comme on a animé en parallèle des débats, des rencontres, des moments culturels, on a continué à le faire, un peu en nomade, dans des cafés, dans des bistrots, où on nous accueillait. Et puis, les liens étaient tellement forts avec ces paysans qu'on a réussi, ce qui est un tour de force quand même, parce qu'ils étaient de tout Midi-Pyrénées, on a réussi à les convaincre à ouvrir un lieu de vente direct de leurs produits à Toulouse, que nous, on allait habiter pour le volet culturel. Donc ce lieu-là, voilà, existe depuis déjà un petit moment.
Oui. Tu peux dire où il se trouve. Moi, je y vais régulièrement.
Il se trouve au 42 rue des Sept Troubadours, à Toulouse, près de la piscine Léo Lagrange, près des allées Jean Jaurès.
Et
il s'appelle le Récantou.
Voilà. Il s'appelle le Récantou, c'est-à-dire deux fois le Cantou.
Épicerie culturelle, puisqu'il y a un libraire qui est impliqué avec nous.
Qui
s'appelle la librairie Floury, qui est impliqué avec une association donc, et des paysans.
Voilà.
Achète des salades, des livres,
oui, tout ça, tout vin. À fait. Mais il faut quand même préciser une chose, ce sont des paysans, mais plutôt de la Confédération paysanne et pas de la FNSEA.
Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Ça c'est sûr, il n'y en a pas. Hein. C'est la CONF, ils sont ou à la CONF ou pas à la CONF, mais ils sont tous proches de la CONF quand même.
Voilà. Ouais. Oui, parce que malheureusement, enfin ici, je crois que j'ai une dent, même si elles sont un peu usées, les miennes, contre les dirigeants de la FNSEA, qui sont quand même, on va se le dire, enfin, il faut le savoir, si vous ne le savez pas, si ceux qui écoutent, et si demain, je pense que oui, malgré tout, cuir et chemise avec l'industrie agroalimentaire et ceux qui fabriquent les produits phytosanitaires, pour ne pas dire les poisons, bien sûr.
Absolument. Et au Récantou, tu n'as ni OGM, ni pesticides. J'avais pour preuve d'ailleurs, il y a certains produits qui ne sont pas labellisés bio. Et pour l'anecdote, je citerai un paysan là, qui remontait comme tout, qui dit « Moi, jamais je ne ferai labelliser mon produit en bio. Je ne paierai pas pour ça. » C'est ceux qui mettent de la chimie dans ce qu'on mange qui devraient payer. Il devrait y avoir un carré orange avec une tête de mort barrée dessus.
Mais voilà. je le rejoins tout à fait. Et il a tout à fait raison parce que je dis quelquefois aussi à l'antenne que ce que je trouve anormal, c'est que moi, si en tant que citoyen, je fais un effort... Parce que aussi j'ai conscience que ce que je mets dans mon corps, c'est quand même sa nourriture, c'est son carburant. Ben oui. Donc si dans un moteur de diesel, on y fout de l'essence, ça ne va pas fonctionner.
Ça ne marche pas.
C'est qu'effectivement, quand nous faisons cet effort-là, qu'il y ait des contrôles, forcément les contrôles, il faut les payer. Donc que ce soit Nature et Progrès, bien que là, ce sont des labels encore plus forts, Nature et Progrès, de Méter. Mais que les concerts et compagnies contrôlent, donc font payer la paysanne ou le paysan. Et du coup, ça se retrouve effectivement au niveau du prix du produit qui est vendu, du produit vivant. Alors que ceux qui nous polluent, ceux qui nous empoisonnent, reçoivent encore plus de subventions que les autres pour continuer à nous empoisonner. Et que donc, ils devraient payer. Mais ceux qui devraient payer, surtout, c'est aussi les transnationales, les dirigeants des transnationales qui fabriquent ces poisons. Parce qu'eux engrangent les bénéfices et nous payons la dette à travers toutes les maladies et les dépollutions.
C'est pas les traitements qu'eux-mêmes continuent à produire avec les médicaments, ce sont les mêmes, ne sont pas impactés dans le prix des pommes ou des... des légumes qu'ils vendent.
De toute façon, c'est très bien. Comme ça, ils nous polluent, ils nous empoisonnent et après, ils fabriquent les médicaments.
Ils nous soignent.
Ouais. Tu peux intervenir. Oui. Tu peux poser des questions. Ah, tu vois, ici, nous n'avons pas la langue de bois. Tu vois, dans cette émission, nous disons les choses et c'est l'objectif. Hein. Donc,
c'est passionnant.
C'est une émission. Enfin, nous faisons du journalisme d'opinion.
Il y a de la moelle.
Voilà. Et donc, à propos de journalisme d'opinion, Alter Echo, c'est grandement la même chose. Et là, donc, c'est un numéro spécial. Alors là, juste, on va l'effleurer. Après, nous marquerons une pause en chanson, mais nous y reviendrons. Les grands projets utiles. Ah, il en existe encore des grands projets utiles ?
Ben, on s'est posé la question. Ouais. En fait, pour faire un peu la genèse du numéro, en fait, Alter Echo, juste un rappel, hein, quand même, 12 ans d'existence. On va fêter le numéro 50 déjà.
Il y a un appel d'ailleurs aussi. Tu pourras en parler, un appel aux dons.
Oui, absolument. Enfin, c'est pas tellement aux dons, aux abonnements. Enfin,
et aux photos pour notre ami.
Aux abonnements. Oui, juste 12 ans d'existence et on travaille sur des dossiers. À chaque fois, il y a un dossier. Là, on s'est posé la question des grands projets utiles parce que il y a juste un an auparavant, on a fait un numéro sur un dossier. On n'arrête pas de dire, nous, les premiers, depuis des années, des décennies, il faut refaire le monde, on est pour un monde nouveau, tout ça. Puis on s'est interrogé en disant, mais finalement, peut-être que tout existe déjà. Il y a des tas d'exemples pérennes depuis des décennies qui impactent des millions de personnes, dont on parle peu. Et c'est le numéro qu'on avait fait il y a un an, qui s'appelait « Des acteurs d'utopie ». Et ce numéro sur les acteurs d'utopie, on était allé chercher ce qui existait sur 30 ans, 40 ans pour certaines fois, qui était parti du social, de l'éducation, de l'écologie, sur de tous les terrains, et qui impactait plus largement, qui pollinisait tous les secteurs. Et des projets qui n'étaient plus des utopies, qui en étaient au départ, mais qui n'étaient plus. Et on s'est dit, tout ça, c'est applicable. Donc, ça a été ce numéro. La question qu'on s'est posée, là, quand on a fait ce numéro sur les grands projets utiles, c'est un peu aussi en creux, parce qu'il y a tellement de projets inutiles imposés, dont on connaît ici aussi entre Sivens, Val Tolosa, heureusement qu'il y en a qui a été abandonné en cours de route, comme Notre-Dame-des-Landes ou l'Europa City, là, récemment. On s'est dit quand même qu'il y avait peut-être des grands projets utiles aussi. Mais alors, du coup, c'est pas des projets qui sont vieux de 30 ou 40 ans qui fonctionnent, c'est des choses qui fonctionnent, mais de façon plus embryonnaire, qui peuvent donner, à titre d'exemple, être repris, ou des projets qui sont encore sur la feuille blanche, quoi, hein, mais qui peuvent être des grands projets utiles. Alors, il faudra qu'on dise pourquoi, qu'est un grand projet utile, comment on peut le définir. On a essayé de le définir, quoi.
D'accord. Allez, je vous propose de marquer une pause en chanson avec quelqu'un que j'aime beaucoup au niveau de la chanson, que nous retrouverons sans doute en live aussi dans les studios de Esprit Occitanie, ex-Occitanie première. Elle s'appelle Marianne Colombier, ça s'appelle Rue Monge. À tout de suite.
Quand je descends la rue Monge, mes rêves volent vers lui. Ma tête est pleine de songes qui me préparent à la nuit. En descendant la rue Monge, je marche sur du velours. Malgré moi, mon pas s'allonge, car je vais vers mon amour. Descendant la rue Monge, j'oublie tout, y'a plus que sa voix. Son regard et ses mensonges, ses sourires et mon émoi. En descendant la rue Monge, j'oublie tout, y'a plus que sa voix. Son regard et ses mensonges, ses sourires et mon émoi.
Bonsoir, vous êtes donc à l'écoute de l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie, ex-Occitanie première, avec donc deux invités qui ont du talent, du niaque aussi, qui ont des choses à nous raconter intéressantes, Philippe Sanson, de l'après et aussi directeur de publication d'un document qui s'appelle Alter Echo, alors qu'il nous parle de projets utiles. Ouais, c'est vrai que heureusement, il y en a quand même quelques-uns. Et tant mieux, dont on entend moins parler, bien sûr, parce qu'il n'y a pas la force de frappe des transnationales, par exemple. Et puis, notre ami David Crespin aussi, qui vient de Montpellier, de l'association Transit, et qui est là donc pour fouiller un petit peu, découvrir le quartier des Pradettes à Toulouse. Et justement, quand je t'ai eu au téléphone, visiblement, et puis de ce qu'en disait aussi le président du collectif des Pradettes, un collectif très actif. Tu recherchais justement des personnes pour faire des portraits ou des personnes qui ne se connaissent pas au départ pour tirer la photo.
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. En fait, c'est on va dire le gros morceau de cette résidence. C'est un projet, c'est le projet initial en fait, qu'on a proposé, qui était en fait de se... Pour répondre justement à ce besoin d'interroger un petit peu la vie du quartier, les gens, les habitudes, et pour les faire se rencontrer sans aucune prétention, pour essayer de provoquer un petit peu ces rencontres, on s'est dit qu'on partirait sur des portraits pris à différents endroits du quartier des Pradettes, avec toujours le même dispositif et finalement le même rendu, mis à part le décor qui changera, qui sera en fait qui est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui sont issues, habitantes ou travaillant dans le quartier. Et l'idée était justement de les rassembler en fait sur une seule, pour le temps d'une prise de vue sur une image. Et d'essayer de jouer un peu avec les codes de la photo de famille, c'est-à-dire souvent une photo avec des gens qui sont un peu bras dessous, il y a ce côté un petit peu proche l'un de l'autre, pour créer quelque part un questionnement. Ouais, ces gens-là, visuellement, du premier regard, peuvent être effectivement de la même famille. Mais finalement, quand on regarde un petit peu le projet et quand on explique un petit peu la manière dont on a fait cette photo, on se rend compte que non, c'est deux étrangers en fait qui se sont rencontrés le jour de la photo. Et le but en fait, c'est alors pareil, toute modestie, mais peut-être espérer que qu'après cette photo-là, en fait, ces personnes continuent à se voir ou en tout cas commence une relation amicale ou voilà. Et donc du coup oui, on recherche activement des personnes et en gros on est parti sur 20 portraits, donc du coup il faudrait 40 personnes. Là pour l'instant on en est à 6, je crois. Donc c'est le début, mais voilà, ouais.
Ça va venir et éventuellement s'il y a des auditrices et des auditeurs qui sont intéressés d'Esprit Occitanie, est-ce qu'ils peuvent comment faire pour te contacter, même s'ils ne sont pas forcément du quartier qui y travaille ou qu'ils connaissent en tous les cas des personnes qui vivent ou qui travaillent dans le quartier?
Le mieux, on a un lieu ressource là-bas qui est en fait la bibliothèque des Pradettes. J'y suis souvent. Le mieux, oui, c'est de passer, puisque de toute manière, les personnes qui sont qu'on recherche en fait sont du quartier. Le quartier n'est pas très grand, donc si vraiment ils veulent participer, on peut éventuellement prendre des informations auprès de la bibliothèque.
D'accord. Et même si éventuellement tu n'y es pas, ils peuvent s'adresser à la bibliothécaire.
Ouais.
Ou...
Tout à fait. Laisser un message, des coordonnées, et puis je les rappellerai. Ouais. Je les rappellerai. Mais en tout cas, oui. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas. On a besoin de vous.
Et pour mener à bien le projet, là, il y a combien de semaines, de mois, de 20 à l'horizon, c'est quoi?
On est parti un peu. Pour l'instant, c'est 2 semaines. Enfin, 2 fois 10 jours. Donc, un peu plus de 2 semaines.
C'est court comme.
Ouais, mais avec la liberté et la possibilité de revenir aussi. Aussi souvent que le projet le demandera, quoi. Donc après, on n'a pas encore défini toutes les zones, enfin toutes les pas les zones, les périodes en fait où je serai là. Pour l'instant, c'est arrêté jusqu'à fin avril. Voilà. Donc en fait, là c'est la première fois. La prochaine fois, on commencera les prises de vue. Donc c'est du 6 au 12 avril. Et ensuite, je reviendrai le 21 jusqu'à la fin avril. Voilà. Mais bon, ce n'est pas exclu qu'on y passe une bonne partie de l'année. Ouais.
Ça sera finalisé par une exposition dans le quartier, ouais, évidemment.
Tout ouais. à fait, oui. Comme je disais tout à l'heure, en fait, cette année, l'agenda culturel du quartier est assez riche. Et l'exposition viendra à l'occasion d'un festival qui s'appelle Saison d'Elle, qui est, d'après ce que j'ai compris, un festival consacré aux artistes féminines. Et du coup, les photos seront visibles aux alentours du lieu du festival.
D'accord. C'est un festival organisé, entre autres, par les Folles Saisons, un café, enfin, c'est plutôt un restaurant culturel, associatif, très dynamique.
On y mange très bien, d'ailleurs. C'est devenu ma cantine.
Préférée.
Ma cantine bah, préférée, oui.
Tous les cas du quartier. D'accord. Merci encore pour ces précisions, David Crespin, donc photographe, artiste de l'association Transit de Montpellier, donc, qui est là pour découvrir aussi les personnes qui vivent ou travaillent dans le quartier des Pradettes à Toulouse. Et l'après, qui publie donc Alter Echo. Donc tu as lancé, enfin l'équipe a lancé un appel aux abonnements et puis sur un site particulier peut-être intéressant parce que je le connaissais pas.
Oui, c'est un site très intéressant. Bon, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle des financements participatifs. Hein. Alors nous, on cherche pas des dons tout simplement. Ce qu'on cherche, c'est un don, mais en fait, qui correspond à une durée d'abonnement. Hein, tout. Donc voilà, c'est clair. En plus, si à partir d'une certaine somme, il y a le livre des 10 ans qu'on a appelé les 10 ans des gros mots d'Alter Echo, les mots dans tous les sens du terme, avec tous les contresens qui sont compilés hein, depuis 10 ans. Et puis, il y a des DVD sur l'OGM avec la conférence de vélo, tout ça, enfin, qui sont offerts. Donc, ouais. C'est sur... il faut aller sur... un site qui s'appelle Hello Asso, en un seul mot, Hello avec un H, hein, Hello Asso, et ça ne concerne, ne peuvent faire des demandes sur ce site que des associations. Donc c'est tout le tissu associatif qui, pour financer des projets culturels, d'emploi, enfin tout ce qu'ils veulent, hein, peuvent intervenir sur ce site, faire des propositions. Donc c'est très bien fait, c'est très facile pour une association de s'y inscrire. La démarche est assez simple, ils sont très facilitants et très à l'écoute. Et donc j'encourage, on avait réfléchi à plusieurs sites et on a vraiment, et c'est la deuxième expérience sur ce site pour une association, c'est plutôt bien fait.
Voilà. Ben écoute,
à découvrir.
Tant
donc,
mieux.
À découvrir pour. On cherche des abonnés parce que ça fait 12 ans qu'on existe, mais ça fait 12 ans qu'on fonctionne. Il n'y a aucun salarié, hein, sinon notre imprimeur qui est Scopy, qui est le seul rémunéré là-dedans. Hein, il n'y a que des bénévoles, mais on n'a pas de publicité, on n'a aucun tarif préférentiel à la poste. On a un tarif qui est à vente au numéro à 2 euros avec les frais d'envoi, etc., qui a jamais augmenté depuis la création. Donc, on a besoin d'abonnés, hein, parce qu'à terme, y en a qui disparaissent, il y en a qui déménagent, il y en a qui oublient. Puis, on a tout un tissu d'abonnés qui oublient de se réabonner, enfin tout ça. Alors, donc, on a voulu un peu booster, on a vraiment besoin d'un vivier, puisqu'on fait appel aussi aux abonnés. Il y a des gens qui proposent des textes sur des dossiers qui écrivent, hein, puisqu'on a des tas de gens avec des compétences très spécifiques, hein, qui sont intéressés. Donc voilà, là on a des abonnés sur le prochain numéro, ça sera hors dossier, mais on est en contact avec des gens qui méritent qu'on parle d'eux parce qu'ils mènent un combat difficile. Ils sont dans le Loiret et c'est un groupe de gens électrosensibles qui vivent d'une façon dramatique. Hein. Ils ont envie de faire connaître leur combat et là je vais recevoir notamment, on ne peut même pas communiquer par mail, hein. Je vais recevoir leur article dans une enveloppe avec une clé USB, des photos pareilles, enfin bon, c'est...
Et donc ça, c'est des sujets qui sont proposés par vos abonnés ?
Oui.
D'accord.
Ouais. Oui, et puis sur certains dossiers, on a des gens qui ont proposé des dossiers. On a fait un dossier sur la LGV, quelqu'un avait écrit. Récemment, cette même personne a écrit sur la démographie. Hein. C'était hors dossier aussi, parce qu'on a toujours deux ou trois pages qui sont hors dossier pour de l'actualité, des trucs comme ça. Donc les abonnés peuvent écrire, pas suffisamment à notre goût, parce qu'on aimerait que ça soit encore plus vivant, mais c'est pour ça qu'on cherche. Voilà.
Et il y a quelques points de vente aussi, notamment bien sûr chez nos amis de l'American Cosmographe. Il y a l'Utopia, bien sûr, à Tournefeuille,
les bijoux, le Recanto, la librairie Floury, le tabac presse d'Arnaud Bernard. Voilà, on a quelques points de vente comme ça. Oui.
Alors, Quels sont, est-ce que tu peux nous donner des exemples justement de ces projets utiles?
Oui, alors des exemples, on en a...
Et on pourrait peut-être faire basculer le financement des projets inutiles vers les projets utiles.
Ça serait pas mal. Mais le problème, c'est que les collectivités sont un peu plus timides là, sur ce type de projet. On a eu du mal déjà, enfin, ce qui est facile à définir, relativement facile par rapport à notre vécu commun, là, tous, c'est de définir un projet inutile. Un grand projet inutile, hein, est imposé. Souvent, c'était un projet qui, écologiquement, était scandaleux, quoi. Ça a souvent été ça, hein, des projets qui, sur le plan écologique, étaient pas tenables. On s'est dit, est-ce qu'un grand projet utile, du coup concerté, est-ce que c'est un projet qui est uniquement respectueux de l'environnement? Ça ne nous a pas paru suffisant comme critère. Pour qu'il soit grand, il faut qu'il impacte déjà du monde, une population importante. Pour qu'il soit un projet, il faut qu'il soit relativement innovant, si on se place au jour d'aujourd'hui, hein, et pas au numéro d'il y a un an qui remontait à 30 ans avant. Et pour qu'il soit... il faut aussi qu'il soit... Pour qu'il soit concerté, il faut qu'il ne soit pas uniquement entre les mains des technocrates. Il faut que la population s'en empare et qu'il soit accepté et en concertation, quoi. Ça, c'est un critère aussi incontournable. Alors, partant de là... On a essayé de lister par rapport à ce qu'on savait, ce qu'on connaissait, quelques projets. Alors, par exemple, au Pays Basque, on a cité l'exemple de l'ESCO. L'ESCO qui est une monnaie locale. On a une monnaie locale ici à Toulouse aussi, hein, qui est le sol. Il y en a d'autres, il y en a partout, il y en a à l'étranger, il y en a plein en France. Mais enfin, l'ESCO, je vous encourage à lire... l'article, il va énormément plus loin que toutes les autres monnaies par rapport à l'exigence et par rapport aux enjeux économiques. Donc, on a presque envie d'aller habiter le Pays Basque quand on voit l'impact de l'ESCO et ce qu'ils ont mis en place. C'est vraiment un exemple très intéressant qui mériterait, là, du coup, c'est un exemple qui mériterait d'être repris. Ensuite, on a... Au niveau de l'énergie, il se passe pas mal de choses avec des collectifs citoyens qui essaient de s'organiser pour relocaliser l'énergie et s'emparer de problèmes énergétiques.
Comme Citoyennaire, peut-être.
Par exemple. Alors, c'est pas eux, mais oui. Peut-être que, justement, on organisera peut-être une soirée au Ricantou avec eux. Hein. Voilà. Là, il y a un exemple qui est très intéressant aussi, qui fonctionne, là, qui date de quelques années, hein, et qui est en Espagne, à Pontevedra. Pontevedra, qui est une ville de Galice, et il y a un maire qui est arrivé, un médecin, qui est arrivé sur des élections. Il fait partie d'un petit parti politique, là, proche maintenant de Podemos, tout ça. Mais c'était avant Podemos. Et à toutes les élections auxquelles il se présentait, il tournait autour de 5%. C'est-à-dire, il faisait un peu ce que nous, on a toujours fait ici à Toulouse, quoi. Et il est arrivé avec le projet Pontevedra, qui est une ville qui était étouffée par la voiture, qui était étouffée par la non-circulation des citoyens qui se cachaient. Il est arrivé avec le projet en disant « Je vais supprimer les voitures à Pontevedra. Je vais rendre la ville aux habitants, aux vieux, aux gamins, aux handicapés, etc. » Il a été élu. Il a été élu sur ce projet, uniquement sur ce projet. Et il a fait quelque chose d'unique à Pontevedra. Pontevedra, c'est une ville maintenant exemplaire. On a même publié un truc qui est assez intéressant. Ils ont fait ce qu'ils appellent le Metro Minuto. C'est un plan qui ressemble à un plan de métro. Et en fait, c'est le plan des déplacements à pied avec d'un point à l'autre le temps qu'on met en marchant, quoi. Et ils décrivent un peu ce qu'est devenu la ville. Il y avait des morts par des accidents, hein, tout ça. Il n'y a plus de morts depuis. Les rues sont rendues à des gamins qui vont en récréation sur des places, des gamins des écoles. Enfin, il y a une vie qui a totalement changé. Et ils ont eu des difficultés, hein, parce qu'il y a eu des recours contre eux. Il faut dire que Pontevedra, c'est la ville où a exercé un certain, à l'époque, Rajoy, et ils avaient en face d'eux des durs à cuire. Ça, c'est un exemple intéressant. Après, chez nous, si je peux citer,
oui,
je peux citer encore quelque chose qui est vraiment très très intéressant qui s'est passé. Et là aussi, c'est exemplaire au niveau d'une commune. Toutes les communes devraient s'en emparer. On en avait même parlé, nous, pour une ville comme Toulouse. C'est Mouansartou. Mouansartou, qui est une ville qui est autour de... Je soupire, mais ce n'est pas par dépit, mais autour de Cannes. Cannes qui a été bouffée par... Où il y avait des fleuristes, tout ça, ça a disparu pour du béton. Enfin, il n'y a plus un paysan, etc. Mouansartou, il y a un maire qui a pensé que, quand même, c'est parti comme ça, la nourriture bio dans les cantines, c'était pas mal. Donc, ils ont fait l'effort, comme font pas mal de cantines, de la nourriture bio. Et puis, ils pensaient que c'était pas trop mal si cette nourriture bio était produite par quelques paysans locaux. Donc, ils ont essayé de se mettre en lien. Et puis, ça prenait de l'importance, les gens étaient intéressés, les parents, ils ont impliqué du monde, ils ont réfléchi. Et ils se sont dit quand même qu'il manquait de paysans et qu'il manquait de produits. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont acheté des terres. La mairie a acheté des terres pour des cultures, pour les cantines de la ville. Aujourd'hui, ils sont à un point où la ville entière, les cantines entières de la ville sont fournies par des produits locaux avec des paysans locaux sur des terres qui appartiennent à la mairie. Tout est trié, les déchets sont triés, ils ont réduit les déchets, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, de façon drastique. C'est les gamins qui trient les déchets, il y a toute une éducation qui a été faite à la cantine. C'est un exemple qui pourrait être appliqué dans toutes les villes, s'il y avait la volonté politique, s'il y avait des choix, parce que là aussi, quand on parle de grands projets utiles, il faut qu'il y ait des choix économique des collectivités, c'est-à-dire on investit sur du futur et sur du, pas nécessairement du court terme, comme c'est souvent le cas, sur du moyen ou du long terme. Et là, la ville a investi. Et c'est une réussite exceptionnelle. Et alors, justement, pour investir sur le long terme, et de temps en temps, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'on n'a jamais d'argent, mais enfin, l'argent, il faut savoir où aller le chercher, hein, parce que... Moi, je considère qu'on ne manque pas d'argent hein, sous nos latitudes. On a voulu quand même, dans les grands projets utiles, on a voulu revenir, à titre d'exemple, ce n'est pas un grand projet utile, mais c'était une petite piqûre de rappel par rapport justement à ces investissements volontaristes, on va dire, financiers, économiques, à des périodes où ce n'est pas quand même gagné. Et on a voulu revenir sur ce qui avait été à l'époque un grand projet utile pour la nation, c'était, après la guerre, le CNR. Le CNR, où quand même le pays était dans des difficultés, il fallait reconstruire, c'était pas gagné. Et le Conseil national de la Résistance a mis en place tout un volet de projets ambitieux. C'est eux qui ont investi pour la sécurité sociale, pour les retraites, enfin, etc. Et ça a été énorme. Ça, c'était ce qu'on peut maintenant, avec le regard dans le rétroviseur, dire que c'était un grand projet utile, justement par ce côté volontariste au niveau des investissements. Ce qui nous manque, là, hein, dans toutes les volontés majoritaires.
Hein. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils courent après les profits et les actionnaires qui considèrent qu'ils n'en ont jamais assez, un certain nombre d'actionnaires, et du coup, c'est plutôt licenciement, course au profit. Comme l'a écrit un certain Jacques Prévert, ils veulent aller de plus en plus vite pour arriver de moins en moins loin.
Voilà.
Hein ? C'est peut-être ça, la conclusion, que sais-je. Mais c'est effectivement très intéressant et ce sont toujours des dossiers qui sont fouillés. Donc, c'est du journalisme aussi d'opinion avec un sacré boulot.
avec un sacré boulot et qui n'est fait que par des militants. Voilà. Et... Il n'y a pas de journaliste. Et quand il y a un journaliste qui écrit, ben il le fait pour le journal.
On peut être aussi journaliste bénévole, quelque part, et avoir la même fonction que le journalisme avec un engagement.
Ah ben oui, parce qu'on a toujours pensé, quand on a créé le journal, on pensait que la presse alternative avait son utilité, sa grande utilité.
Soyons clairs, nous pouvons être journalistes chez BFM, CNews, Le Figaro, et puis être journaliste à Mediapart, aussi reporter, Politiste, dont on a parlé, le Canard enchaîné, ce n'est pas du tout la même écriture, ce n'est pas du tout le même engagement. Hein ? Donc c'est comme pour la photo, où on peut se retrancher, juste faire un clic-clac pour quelques journaux. Enfin, moi, j'ai fait des piges pour la Dépêche de Midi pendant plus de 20 ans. Donc, David Crespin, qu'est-ce que tu as envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs de l'émission « Et si demain » sur Esprit Occitanie ? Pas trop loin du micro, s'il te plaît.
Eh bien, merci pour votre accueil. Il fait un peu froid, quand même, chez vous.
Oui, à ce moment, oui.
J'ai appris qu'il avait neigé pas loin hier, je crois, aux alentours de Carcassonne, il paraît. Et voilà, non, mais je suis très, très heureux d'être là et de découvrir, jour après jour, ce quartier des Pradettes.
D'accord. Merci. Sachant que, enfin, à Montpellier, je suppose qu'il y a une vie aussi assez conséquente, même au niveau associatif. En tous les cas, à Toulouse, c'est le cas, mais Montpellier, qui est la voisine, finalement, la pendante de l'Occitanie.
Oui, culturellement, c'est vrai qu'elle n'est pas en reste. Hein. Oui, c'est deux villes qui sont quand même assez proches. Bon, un peu moins peuplé au niveau de Montpellier, qui reste une petite ville de province, même si elle a, on s'entend, un peu rayonné un peu plus loin, mais ça reste quand même des villes assez proches, assez similaires, ouais. Et où il fait visiblement, en tout cas pour le peu que j'ai vécu ici, bon vivre ici et là-bas, ouais.
Merci d'être venu dans l'émission « Et si demain ». Merci Jean-Louis Arzac pour la réalisation, puisque sans réalisation, pas d'émission. Allez, on se dit rediffusion de l'émission demain entre 10h et midi. Ça le fait ? Allez, ça le fait. Merci. Et merci, donc l'indicatif est signé de Damien Moreto. Je vous dis rendez-vous vendredi matin entre 10h et midi pour l'émission Traversée. Nous allons parler entre autres de théâtre, mais pas que, bien sûr. Bye bye, à vendredi matin en direct aussi sur Esprit Occitanie. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions ensuite grâce à Jean-Loup en podcast sur Esprit Occitanie, bien sûr.